Paris sur Terre, Sonia Kronlund.
J'ai reçu pendant quasiment 3 mois 2 appels hebdomadaires émis depuis la prison d'Evine à Téhéran, le mardi et le jeudi à 11h30. J'ai enregistré ces conversations avec Olivier Grondeau, un jeune Français de 34 ans parcourant le monde, arrêté à Shiraz, dans le sud de l'Iran, le 12 octobre 2022. Il a d'abord été détenu au secret par les services de renseignement iraniens dans des conditions que l'on peut raisonnablement qualifier de torture, comme c'est le cas encore pour Cécile Koller et Jacques Paris. Au bout de 2 mois, Olivier a été transféré au sein des quartiers pénitentiaires ouverts de Shiraz puis de Téhéran dans la sinistre prison d'Evine. Après 2 ans de détention, sans que le grand public ne connaisse son identité, Olivier avait décidé, depuis quelques mois, de sortir du silence et d'intervenir dans les médias pour exiger sa libération et celle de Jacques Paris et Cécile Koller. Il a publié une tribune dans Le Monde, sa mère est intervenue à la radio et à la télé. C'est à cette occasion que nous sommes entrés en contact et que nous avons décidé de commencer ces conversations. Dans un premier épisode, diffusé le 27 mars dans Les Pieds sur Terre, le jour de son anniversaire, Olivier me racontait son arrestation, le simulacre de son procès et sa condamnation absurde à 5 ans de prison pour collecte d'informations au profit des puissances étrangères. Olivier Grondeau sait alors clairement qu'il est un otage et l'objet de négociations dont il ignore tout. Ce que je comprends, c'est qu'il est aussi un jeune homme étonnant, sensible et romanesque, qui se révèle au fil de nos échanges de plus en plus attachant. Tout de suite donc, je vous propose de continuer à écouter ce témoignage exceptionnel au cœur de la prison d'Evine.
Allô Olivier ?
Oui, allô, bonjour Sonia, c'est Olivier Atter.
Bonjour Olivier, comment ça va ?
Ça va, et vous ?
Ça va, sur une note de 1 à 10 ?
7.
Ah, pas mal.
Oui. Bon, c'est un à 10 en prison quand même, hein. Mais oui, ça va aujourd'hui.
Ah, d'accord. Vous vous inquiétez pas trop pour vos proches ?
J'ai des échos, des retours. Apparemment, ça va. Ils me sentent moins en danger qu'il y a quelques mois, je pense, aussi. C'est-à-dire qu'ils savent que je ne me scarifie pas. Donc, je pense que ça les soulage aussi d'un certain poids.
Mais pourquoi vous êtes scarifié avant ?
Ah oui, cet été, c'était assez compliqué. Ouais. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus que ça que les juges pourraient entendre. C'est-à-dire que la stagnation du dossier a fait que rien n'avançait. Moi, je ne pouvais plus de cet état d'attente. Moi, j'étais vraiment très fatigué. Donc, petit à petit... Avec ma petite lame de rasoir, je m'entaillais le bras. C'est arrivé une fois comme ça. Et donc ça a été très ponctuel au début. C'est une manière de décompresser au début. Si étrange que ça puisse paraître. Et puis petit à petit, ça a vraiment été un moyen d'exprimer l'injustice, en fait. Quand je me donnais des coups de rasoir sur le bras, ben, j'avais l'impression de rendre visible toute la violence psychologique qui me faisait subir et qui pouvait très facilement dénier, puisque ça ne se voyait pas. Et du coup, pour moi, c'était un moyen de leur dire « Bah, regardez ça, vous pouvez pas le nier. » Et puis, il y a un moment où on se dit « Ah, j'en ai fait 7 hier, peut-être que demain j'en ferai 12. » pour quelque chose se passe, puisqu'apparemment 7, c'est pas assez pour qu'ils comprennent que ça ne va pas. Et donc, au cours de l'été, ça s'est vachement accéléré. C'est-à-dire que c'est devenu une fois par semaine, puis il y a un moment où ça a été 2 fois par semaine, et puis 3 fois par semaine. Et à ce rythme-là, s'ajoute aussi la profondeur des entailles. Après, c'était en plein été, donc autant vous dire qu'à Shiraz, en plein été, on n'a pas de manches longues. Donc ça se voyait, ouais.
Et vos camarades de cellule, ils ont réagi comment ?
La première fois, beaucoup ont été choqués, sans plus me parler. Et puis en fait, ça s'est banalisé. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'arrivaient même plus à faire la différence entre les vieilles cicatrices et les nouvelles. Et puis très vite, vous êtes catalogué comme celui qui va voir le psychiatre une fois toutes les 2 semaines. Et du coup, c'est bon, c'est ok, c'est entre les mains du psychiatre. je me sentais obligé de montrer la souffrance qui me faisait subir. Et selon moi, c'est très probablement une des raisons principales qui ont fait qu'ils m'ont transféré dans une autre prison. C'était pour me tenir un peu plus à l'œil, à Téhéran même, et pour voir si c'était une question de prison, ou si c'était une question d'environnement social, ou si c'était... Voilà. Je pense que ça a été une des grosses raisons qui ont expliqué mon transfert forcé à Evin. Il y a eu des moments vraiment assez sombres à Evin. Et j'avais beaucoup de mal à en parler par téléphone quand j'avais mes proches, parce que les 10 minutes de la journée où vous avez quelqu'un au téléphone, vous avez envie de les passer vers de l'optimisme, vers des blagues, vers des... Et du coup, c'était très difficile de parler de ça. Et puis, il y a un moment où le mal-être était tellement fort que j'ai fini par en parler à mes petits coups de téléphone. Et c'est là, en fait, où mes amis m'ont dit « Mais en fait, Olivier, là, les décisions relèvent de toi et on décidera rien sans toi. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de médiatiser tout ça. Les amis, mes proches se sont un petit peu regroupés, ont formé un peu une équipe. Et puis, à la mi-octobre, ça allait faire 2 ans que j'avais été enlevé. Et donc, on se disait, bah, c'est une bonne date pour en parler dans les médias. Donc, moi, j'ai commencé à me projeter dans ça, à avoir des projets qui m'ont, je pense, essentiellement remis à flot. Ça a permis d'exprimer la colère d'une autre façon que quand j'en coulais le sang de mes bras.
Ah merde. Bon, voilà, on l'a perdu. Allô ?
Oui, allô Sonia, c'est Olivier à Téhéran. J'espère que ça va être meilleur.
Oui, là je vous entends, mais au début tout à l'heure je vous entendais, puis tout d'un coup rien, en fait, le blanc.
Ouais, excusez-moi, la coupure a été assez longue.
Non.
Et puis ensuite, il n'y avait plus personne quand j'appelais l'opérateur. Plus personne répondait.
C'est-à-dire, comment vous appelez d'abord un opérateur ? Comment ça marche, en fait ?
Alors, en fait, nous, on a droit à avoir 7 numéros d'appel sur notre carte de téléphone. C'est des numéros qui doivent être validés par les services de renseignement. Et donc, parmi ces numéros, moi, par exemple, j'ai l'ambassade, mon avocate, pour les numéros iraniens. Et depuis la ligne de la prison, on ne peut pas appeler des numéros étrangers. Ça ne fonctionne pas. Donc, notre seule possibilité, c'est de créer un compte chez un opérateur iranien qui, lui, permet les appels à l'étranger. Et du coup, moi, depuis la prison, j'appelle un numéro iranien qui est celui de l'opérateur. Et l'opérateur, je dis bonjour, voilà, mon numéro de compte, c'est ça. Et je souhaite appeler tel numéro. Et là, il appelle en France le numéro que je lui demande.
D'accord. Donc, en fait, les numéros que vous appelez à l'étranger ne sont pas validés, de fait, par les renseignements ?
Non. Seul le numéro de l'opérateur est validé. À Noël, quand j'ai fait ma grève de la faim, c'est parce que ça faisait 2 mois qu'il n'acceptait pas d'ajouter sur ma carte de téléphone le numéro de l'opérateur iranien.
Vous avez fait une grève de la faim qui a duré combien de temps ?
En 24 heures, ça a été très efficace. Au bout de 24 heures, ils m'ont dit « si, tout de suite, t'inquiète pas ».
C'est vrai ?
Oui. Enfin, ça faisait 2 mois que j'envoyais toutes les 2 semaines des relances à ma demande, qui restaient toujours lettre morte. Hein. Leur stratégie, c'est toujours en fait de ne pas donner de réponse. Ils nous opposent rarement un refus. Ils laissent juste pourrir la situation. Mais c'est pour ça, en fait. Moi, pendant 2 mois, je prenais mon mal en patience. Et quand le jour de Noël est arrivé, j'ai trouvé que c'était 10 fois plus indécent. Parce que dans les droits basiques du prisonnier, il y a celui d'appeler sa famille. Mais alors quand en plus c'est le jour de Noël, c'est un élément déclencheur, quoi. En fait, quand on commence à jouer avec notre seule arme d'otage, qui est notre santé, là, ils sont très très réceptifs et réactifs.
Mmh. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu, Olivier, sur votre vie en détention? Où vous dormez? Comment se passe une journée? Pour qu'on essaie de visualiser un peu.
Quand j'étais à Shiraz, on était 4 par cellule. Quand j'étais à Téhéran, en garde à vue, en 209, dans la première cellule où j'ai passé 2 semaines, on était 8. Dans la seconde cellule, qui était un petit peu plus petite, on était 6. Globalement, quand on étale les couvertures pour dormir, il n'y a plus d'espace. C'est des cellules qui sont petites. Et à l'automne 2022, c'était bondé d'étudiants, de professeurs. C'était pendant les manifestations et les cellules des services de renseignement étaient bondées.
Qu'est-ce que vous faisiez toute la journée?
Les repas qu'on nous apporte, moi, me donnait vraiment un rythme. Je mangeais mon petit déjeuner et puis après venait la période de l'attente du déjeuner. Puis une fois que le déjeuner était passé, j'étais dans l'attente du dîner. C'était un peu les seuls repères temporels qu'on avait de toute façon, avec l'appel à la prière. Et puis le reste du temps, je me souviens que mes pensées étaient comme ventilées et j'arrivais à penser à des choses, à l'enfance. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais un fan absolu du Seigneur des Anneaux. Encore maintenant, je connais les 3 films à peu près par cœur. Mm-hmm. Je connais aussi plein de répliques. J'arrive à me remémorer presque chaque séquence. Et donc, après le déjeuner, j'avais toujours un moment où je m'asseyais la tête dans les bras, entre les genoux. Je m'asseyais dans mes couvertures pour être bien dans le noir, comme si j'étais dans une salle de cinéma. Et je lançais la projection. J'essayais au maximum de me remémorer chaque détail, chaque réplique d'une scène. Du coup, ça prenait beaucoup de temps. Et en vrai, j'avançais dans le film avec une lenteur d'escargot. Je passais, je pense, peut-être 1h30 chaque après-midi à regarder Le Seigneur des Anneaux, mais avec une telle méticulosité pour reconstituer chaque scène que en 1h30 de visionnage, j'avançais peut-être d'un quart d'heure dans le film ou de 20 minutes. Je me sentais mieux à la fin. Moi, j'ai jamais mémorisé beaucoup de poèmes. Ceux que je connaissais, je me les récitais presque chaque jour. Je me récitais quelques fables de La Fontaine, quelques vers persans, et puis les anagrammes. Moi, une de mes obsessions, ou un comportement un peu compulsif que je peux avoir très facilement, c'est de commencer à faire des anagrammes. Par exemple, l'anagramme d'Olivier, c'est voilier. Normalement, ça peut pas vous occuper très longtemps. Mais moi, je me mettais à faire des anagrammes soit du nom et du prénom de mes amis. Donc, ça commençait à faire 15, 20 lettres et puis à chercher plusieurs mots à l'intérieur. Soit, je commençais à faire des anagrammes de vers entiers. Il y a plusieurs sonnets de Gérard de Nerval que j'avais la chance de connaître par cœur. Et du coup, je commençais à faire hémistiche par hémistiche. J'ai fait des anagrammes du premier sonnet des Chimères, El Desdichado. Et ça, c'était plutôt mon activité du soir en attendant le dîner. Et à chaque fois, j'essayais de pas trop déborder. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux, j'ai jamais essayé de le visionner plus d'une heure, 1h30 par jour. Quand je faisais des anagrammes, je voulais pas faire plus d'une heure, 1h30 par jour parce que j'avais trop peur de m'en dégoûter et de plus rien avoir à faire.
Donc la grande différence entre la détention telle que Jacques et Cécile la vivent et ce qu'on appelle la prison, c'est les conditions, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir du tout dans la cour, qu'ils ne peuvent pas bouger à l'intérieur de la prison.
L'essentiel de la différence, c'est qu'en prison, on a une certaine liberté de mouvement. C'est-à-dire que du matin au soir, on peut aller d'une chambre à une autre, d'une chambre aux toilettes, à la douche, à la cuisine, dans la cour. s'il y a une bibliothèque à la bibliothèque, s'il y a une petite salle de sport à la salle de sport, on peut aller dans la salle de prière. Voilà, ça c'est la prison.
Elle ressemble à quoi la cour ?
La cour, c'est un carré de béton de 15 mètres par 15. Et on y boit le café quand il y a un petit soleil. On fait des bonhommes de neige si jamais il a beaucoup neigé à Téhéran. C'est aussi l'endroit où il y a le guichet de la boutique. Donc on sort dans la cour pour aller acheter son café, des cigarettes, des pâtes. Et les paquets de cigarettes, c'est un peu la monnaie officieuse de la boutique de la prison.
C'est des barman ou des Marlboro ?
Mais on en a de plusieurs types, Sonia. On a des barman essentiellement, des barman de différentes couleurs. C'est une monnaie, vous voyez, par exemple, là, il y a un de mes camarades de chambrée qui a décidé qu'on allait manger des pizzas ce soir. Et donc, c'est lui qui prépare les pizzas pour toute la chambrée. Je pense qu'on est 16 maintenant. Il prépare les pizzas pour 16. Et nous, on lui donne 5 paquets de barman ce soir, chacun. Moi, je passe la plupart de mon temps dans la bibliothèque. Il y a une petite bibliothèque avec des tables. On peut s'asseoir pour travailler. L'ambassade fait acheminer quelques livres par mois depuis Paris. Une petite salle de sport. Et puis, j'ai des bons camarades. Mais on parle rarement de notre propre chef, de ce qui nous a amené là. Ça m'arrive de demander comme ça par curiosité. Mais il y a toujours un peu cette ombre de suspicion qui plane, hein, vous savez, dans chaque bâtiment, et même dans les cellules de garde à vue, hein, là où sont encore Jacques et Cécile. On sait que il y a certains prisonniers qui, parfois, ponctuellement, acceptent de collecter des informations. Les enquêteurs leur font miroiter des remises de peine, des allègements divers et variés. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un commence à aller sur ce terrain, ça arrive que les gens tiquent un petit peu. Mais en fait, pour moi, le plus dur dans la vie sociale ici, c'est que c'est une vie sociale exclusivement masculine. Et moi, dans ma vie, j'ai toujours été environné par, je sais pas, une majorité de femmes. Et moi, parfois ici, j'ai trop du mal. Quand j'ai une interlocutrice au téléphone, déjà, ça me fait un bien fou. Franchement, moi, parfois, j'ai l'impression que les garçons, ils parlent que soit de boulot, soit de voiture, soit de meuf.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
C'est extrêmement ennuyeux au bout d'un moment. Donc, je me sens un peu toujours à traquer ceux de mes camarades qui, en fait, aiment bien utiliser le second degré, qui prennent un peu la tangente par rapport à une sorte de modèle de conversation très conventionnel. Moi, dans l'enfance, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu différent des autres. Je me suis toujours très souvent rabattu sur les activités intellectuelles. On m'a fait sauter plusieurs classes. J'ai toujours été un peu dans un flottement social.
Mais vous avez sauté combien de classes ?
Deux. La grande section de maternelle et le CM2. À la fin des vacances, je pense qu'on était déjà rentré à Paris. Et d'un coup, on m'a dit, en fait, tu passes au collège. C'était chaud. Ça voulait dire qu'en plus, j'allais pas retrouver mes potes, puisque eux, ils seraient encore à l'école élémentaire dans un autre établissement. Et du coup, j'étais un petit peu petit pour ma taille. Mais alors, avec 2 ans d'avance, j'étais vraiment rikiki. C'était la rentrée de la 6e. Il y a beaucoup de filles de 11 ans qui devaient avoir des petits frères. Et je pense que de cette façon, entre autres, j'ai un peu réchappé au calvaire scolaire que vous retrouvez dans tellement de témoignages d'Asperger, de THQI.
Vous êtes catégorisé Asperger ?
Ben, en fait, j'avais lancé cette procédure de recherche, mais elle était incomplète, elle était inachevée au moment où j'ai été enlevée. Et l'ambassadeur en sait plus que moi sur ce sujet très personnel pourtant. que j'avais une visite avec l'ambassadeur ce matin.
Comment ça se passe, ce genre de visite?
On m'appelle et puis il y a un des gardiens qui m'escorte jusqu'au bâtiment administratif où ils ont quelques bureaux où ils peuvent recevoir des officiels. Voilà, c'est pas dans les bâtiments habituels des rencontres avec des visites des familles, etc. C'est dans un lieu un peu à part, qui est probablement bien équipé en micro. Et voilà, et ça dure entre une demi-heure et une heure. On est assis à une petite table basse et on peut discuter.
On vous sert du thé ?
Pas cette fois-ci, mais la fois d'avant, je crois, oui. Mais moi, j'avais apporté des petits chocolats. J'avais acheté à la boutique de la prison, donc on avait des petits chocolats. Parce que j'ai découvert une marque de chocolat qui a le terrible défaut de s'appeler Merdasse. Et du coup, je voulais manger des merdasses avec l'ambassadeur parce que lui, je pense qu'il n'en avait encore jamais mangé. Il connaissait pas la marque. Et voilà. Donc, on a un riz.
Et il vous a donné des nouvelles bonnes ou...
Bah, écoutez, il sera à la visite que Macron a accordée aux trois familles. Apparemment, Macron a tenu à ce que lui aussi soit là. Donc, à part ça, vous savez, moi, on m'a toujours dit... Il y avait des négociations en cours. Ça fait 2 ans et demi qu'il y a des négociations en cours. Bon, je pense avec des phases d'accélération et de ralentissement. Et on m'a toujours dit que une des lignes de communication de la diplomatie, c'était surtout de ne pas créer de faux espoirs aux familles et aux otages. Donc on sera vraiment parmi les derniers informés. Je vais peut-être laisser le téléphone.
Merci Olivier.
Et puis on s'appelle mardi.
Super. À mardi Olivier. Ouais, d'ailleurs, je vous ai noté déjà. Allez, bonne journée. Je vous embrasse. Bon courage Olivier.
Merci à vous.
Allez, bonne journée.
Rodafès.
Au revoir. Allô?
Oui, allô.
Oui.
Sonia, c'est Olivier à Téhéran.
Bonjour Olivier, comment allez-vous aujourd'hui?
Bah écoutez, j'ai eu des jours un petit peu compliqués. Enfin, c'est toujours compliqué d'ailleurs. On a 2 camarades qui ont été transférés dans la prison qui sert d'antichambre à l'exécution. Et la Cour de cassation avait déjà rejeté leur appel, donc on s'attend à tout. Les deux étaient dans mon secteur du bâtiment 4. Et l'un d'eux était dans ma chambre et on s'entendait vraiment bien. Donc c'est vraiment la première fois que la peine de mort me touche d'aussi près.
Et vous savez pour quelle charge ils étaient là? Qu'est-ce qu'on leur reproche?
De l'espionnage. Mon camarade, je sais que c'était ça. Je crois qu'il y avait un rapport avec le Mossad, mais je suis pas sûr.
C'est des jeunes?
La conversation, on les a rarement de front. Ouais, mon camarade, il est de 93. Donc c'était son anniversaire la semaine dernière. Donc là, il a fêté ses 32. Et du coup, on essaie d'avoir contact avec les familles, avec les avocats, de voir où c'en est, si vraiment ça prend une mauvaise tournure ou pas. Est-ce que la famille est invitée à un dernier parloir? Là, ça veut vraiment dire que l'exécution est planifiée. Quand je parle de dernier parloir, ça veut vraiment dire que les autorités pénitentiaires contactent la famille pour leur dire « Écoutez, c'est le dernier rendez-vous avant l'exécution. Soyez là tel jour à telle heure. » Souvent, ils le font le matin même. Ils préviennent les proches le matin même. Et là, la famille, elle a eu droit à un rendez-vous aujourd'hui. Alors, on essaye de comprendre si vraiment c'était officiellement un dernier parloir ou si c'est juste parce qu'ils ont été transférés, ils sont arrivés dans une nouvelle prison, ils ont eu un droit de visite.
Voilà. Parce qu'ils ont été transférés où exactement?
C'était une prison à Téhéran qui s'appelle Prez-el-Essaj. La plupart du temps, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Quand il y a un condamné à mort à Evin, dont l'exécution a été programmée, il le transfère d'Evin dans cette prison-là.
Et c'est là qu'il l'exécute?
Voilà. C'est très stressant, parce qu'il y a aussi la question de est-ce que les familles comprennent ce qui est en train de se passer, est-ce qu'ils estiment à quel point il faut vite porter la situation dans les médias, mais c'est une question d'heure, parce que chaque heure compte. En Iran, le jour des exécutions, c'est le mercredi, donc c'est demain. Et du coup, ça fait 48 heures qu'on essaie de voir si les familles, vraiment, elles comprennent ce que ça veut dire, le transfert dans l'autre prison. Il y a une des familles qui dit « Oui, mais regardez, la Cour de cassation, elle n'a pas encore rejeté son appel. » Sauf qu'en fait, ça, parfois, ça arrive 2 semaines après l'exécution, c'est-à-dire qu'ils exécutent, et 10 jours après, il y a le papier officiel de la Cour de cassation qui arrive, qui dit « Oui, oui, on avait rejeté son appel. » Donc, j'ai fait un message audio en persan, en direction des gens, pour qu'ils soient sensibilisés un peu à grande vitesse, et que les réseaux s'en emparent, et que parfois il suffit d'une demi-journée hein, pour que ça commence à monter, la pression commence à monter sur les réseaux sociaux, et que du coup une exécution soit annulée, ou retardée, reportée. C'est déjà arrivé un certain nombre de fois, donc on estime que vraiment la pression médiatique, c'est la dernière arme qui nous reste. Voilà, on va voir ce qu'on décide. Et ça alterne entre des phases intenses de « Ok, c'est mon créneau téléphone, il faut que j'appelle l'avocate, il faut qu'on voit où on en est, est-ce que quelqu'un a réussi à contacter les familles, est-ce que les familles ont du nouveau ?» Ensuite, démêler les faits et puis l'interprétation des familles. Ensuite, prendre en compte le fait que en vrai, si l'exécution est planifiée, il est tout à fait possible que les autorités pénitentiaires et les services de renseignement cherchent à ne pas rendre les choses vraiment très claires. Parce que sinon, ils savent qu'il y a un risque de révolte sur les réseaux sociaux et qu'ils soient obligés d'annuler.
Après, ne prenez peut-être pas tout ça sur voilà. vos épaules, Olivier.
Oui, oui, bah, vous savez, ça a été une longue réflexion. Et moi, je mets mon dossier de côté. Si ça me vaut un mois de garde à vue, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que mon pote, fait qu'on puisse annuler potentiellement une exécution, quoi. Mmh. Et ici, tout le monde a peur, bien sûr. Tout le monde est un peu là maintenant. Je peux pas... Si j'ouvre la bouche, ils vont m'en mettre pour 1 an, pour 2 ans, machin. Je vais vous laisser.
Ouais, Sonia, pardon, c'est moi qui m'excuse.
Je veux que mes camarades continuent de m'accorder leur téléphone de temps en temps pour eux. D'accord. Merci beaucoup.
Au revoir, merci beaucoup. Hein. Bon courage, Olivier.
Au revoir.
زندگی آزادی برای آزادی
C'était Je vous appelle depuis la prison d'Evin à Téhéran, 2e épisode, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci au comité de soutien d'Olivier Grondeau, à Karim Katan en particulier, à Inès Bouffartig, Sébastien et à Perrine Kervran. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Et la semaine prochaine, dans Les Pieds sur Terre, ce sera le 3e épisode de ces entretiens où Olivier Grondeau nous racontera l'événement le plus inattendu et le plus soudain qui lui soit arrivé après son arrestation, sa libération le 17 mars.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre, d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.